Radioscopie.
Lucifer.
Jacques Chancel. Madame Lucifer, je ne dirais pas que votre vie a commencé un 13 décembre, mais c'est ce jour-là que vous avez rencontré un certain Edgar Faure, jeune avocat très bavard. Vous vous appeliez Lucie Meyer, l'avocat avait du goût, il a demandé immédiatement votre main, et vous ne l'avez plus quitté depuis 38 ans. Il a bondi dans la politique, s'y est affirmé, la carte Edgar Faure est bien connue. Vous, Lucifer, vous êtes devenu écrivain couronné, deux prix, nous en parlerons tout à l'heure, directrice de revue, et puis surtout parisienne au sommet. Vous êtes l'auteur du journal d'un voyage en Chine, des passions indécises, des filles du calvaire, de l'autre personne, des variations sur l'imposture, et d'ailleurs, on a tiré une pièce à la télévision, La Bien-Aimée, avec Michel Morgan. Aujourd'hui, il paraît Le Malheur Fou, chez Julliard. Je le dis tout de suite, très très bon livre. Mais est-ce qu'il y a un parallèle entre l'amour fou et le malheur fou ?
Non, il n'y a pas de parallèle. J'ai même hésité à prendre ce titre que j'ai choisi sans le choisir, c'est-à-dire que c'est à un moment donné dans mon roman, cette phrase est arrivée, je l'ai écrite et je me suis dit plus tard, voilà le vrai titre. Et puis j'ai hésité à cause du malheur fou. Je pensais appeler à un moment donné ce roman « L'aberration », qui est un titre honnête. Je suis pour les titres honnêtes. Alors, « L'aberration » était un titre honnête, car il s'agit peut-être d'une manière d'aberration. Et « Le malheur fou » était aussi un titre honnête. Et puis, il paraît que « Le malheur fou », c'était mieux. C'était aussi le premier. J'aime beaucoup les premiers titres que je choisis.
Nous allons beaucoup parler de l'amour fou, du malheur fou. Vous voyez, je suis déjà sur la mauvaise pente. Mais d'abord, nous allons parler de Lucifer. Il y a tous ces problèmes de la vie. Vous écrivez, Edgar Faure fait de la politique, et je me demande sur quel terrain vous vous rencontrez.
Mais sur tous les terrains, nous nous rencontrons sur le terrain de la politique et de la littérature, ce qui ne sont pas du tout opposés. D'abord parce qu'Edgar Faure écrit et que moi je dirige une revue politique, donc il y a beaucoup d'interférences entre nous. Et puis sur tous les terrains de la vie, de l'amour, des vacances.
Est-ce qu'il participe beaucoup à votre revue ? Est-ce que vous lui donnez souvent la plume, l'occasion d'écrire ?
Quelquefois, par exemple, je vais actuellement préparer un numéro de la Nef sur la société quantitative qui lui est chère, mais enfin, il peut se passer 3 ans, 4 ans sans qu'il écrive dans la Nef. Et puis un jour, je peux faire un numéro, j'en ai fait un sur le contrat social, mais c'est absolument le hasard. Tout ça est le hasard, il n'y a pas du tout de préméditation. Je vous dis, il est peut-être resté 5 ans sans écrire dans la Nef, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, vous me posez la question, je réfléchis et je n'en sais rien.
Les auteurs que vous engagez sont des auteurs que vous choisissez d'une certaine manière ?
En fonction du sujet, puisque maintenant nous ne faisons plus que des numéros spéciaux. Alors évidemment, autrefois j'avais une équipe, c'était un petit peu différent. Mais maintenant, je ne peux pas engager pour parler des ordinateurs la personne que j'engagerais pour parler du numéro sur l'amour. Si j'en fais un, j'en ai fait un il y a 4 ans, 5 ans. Ce ne sont pas les mêmes personnes, c'est tout. C'est en fonction de ce que je fais que je trouve des écrivains.
J'ai eu la chance d'accueillir ici, à ce micro, le président Edgar Faure, qui m'a beaucoup parlé de vous. J'aimerais que vous me parliez de lui.
Oh, écoutez, non, nous n'allons pas faire tout de même du couple et du conjugal éternellement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur lui ?
De toute manière, votre livre, c'est du couple et du conjugal.
Ah oui, mais c'est pas à nous.
Mais commençons par là.
Ça n'est pas nous. Ça n'est jamais nous. D'abord, j'ai écrit 6 livres, Abandonnant la Chine, on sait que je ne suis pas Mao. Bon, mais pour les 5, Dantin est divisé en 8, alors si j'ai bien compté, ça me ferait déjà 12 personnages. Non, je ne suis pas les 12 personnages, sauf dans le cas où Flaubert dit « Madame Bovary, c'est moi ». Si demain j'écris le journal d'une prostituée, le journal d'une femme de chambre ou le roman d'Aram Bonheur, ça sera moi aussi, et puis ça ne sera pas moi. L'histoire, ça n'est jamais moi, ça n'est jamais quelqu'un que je connais, l'histoire. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Surtout les gens qui ont eu l'occasion de lire, qui ont eu peu d'occasion de lire, par exemple, disent « Ah oui, est-ce que c'est quelqu'un ?» Mais non, ça n'est jamais personne, et puis c'est tout de même quelqu'un.
Il n'y a pas de clé.
Je n'ai jamais écrit un roman à clé, et j'en serais incapable. J'ai écrit autrefois un roman qui s'appelait « Les filles du calvaire », qui était aussi un problème de couple. Et j'avais pris beaucoup de notes durant 2 années. Mais peut-être la valeur de 150 feuillets de notes. Eh bien, je ne me suis servi d'aucune de ces notes, car c'était des notes vraies sur des couples que je connaissais. Parce que je ne peux pas me servir de cas. Je suis le contraire de quelqu'un qui peut faire un roman à clé. Est-ce que c'est de la pudeur? Je ne sais pas. Et dans les nouvelles sur l'imposture que j'avais publiées, il y a une histoire qui est l'histoire d'une jeune fille qui dîne en ville, si j'ose dire, puisque chez elle, mais enfin qui assiste à un grand dîner chez ses parents un soir où au dernier moment un invité manque et ils ne veulent pas être très à table. Et cette jeune fille découvre le monde dans sa propre demeure et dans l'appartement où elle est née. Elle découvre un univers qu'elle ne connaît pas en dînant en ville. Alors, à l'époque, j'avais une fille de 17 ans, l'héroïne avait 17 ans, on m'a dit naturellement, c'est Agnès. Ce n'était pas du tout Agnès. Mais ce qui est très drôle, c'est que l'histoire est arrivée chez moi avec Agnès 3 ans après. Et qu'un soir, en effet, il m'a manqué un 14e à table, que j'ai fait venir Agnès, et à ce moment-là, la nouvelle avait paru depuis 3 ans. Donc je ne me sers jamais, mais ce n'est pas pour m'en défendre, c'est peut-être une incapacité, je ne me sers pas des choses que je vis.
De toute manière, il est beaucoup plus difficile d'être seulement une romancière.
Donc, tout ce que... On peut me rencontrer sans danger. Je ne raconterai jamais les histoires que j'ai entendues.
Lucie et Edgar, c'est un couple bien connu à Paris. C'est difficile de...
C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on dit « Oh, la femme d'Edgar Faure, c'est pas la peine ». Vous voyez ce que je veux dire quand on propose des choses, on dit « Oh, mais elle a déjà tant de choses, c'est la femme d'Edgar, et puis ses ennemis deviennent les miens, enfin, tout ça s'accumule, c'est très compliqué. » Mais il ne faut pas s'en inquiéter, je pense, c'est la seule façon de vivre. Par exemple, à un moment donné, Edgar était ministre, la nef faisait un peu d'opposition, et on me disait « Comment faisiez-vous ?» Ben, je ne sais pas comment je faisais en vivais, je ne sais pas non plus comment je marche, mais en tout cas j'avance. Je ne sais pas comment on fabrique des enfants, mais je l'en ai fait. Eh bien, la vie c'est ça, au fond, on fait des choses dont on ne sait pas comment elles se font. Donc ça doit être compliqué. Ce qui m'agace beaucoup, c'est quand on me dit « Mais comment avez-vous le temps d'écrire ?» Alors ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup, et ça me vexe énormément, parce que le problème n'est pas d'avoir du temps, c'est un autre problème. Et le problème du temps n'est pas exact. On a le temps de faire ce qu'on veut faire. Et alors, j'aimerais mieux qu'on me dise « Comment faites-vous pour écrire bien ?» Mais « Comment trouvez-vous le temps d'écrire ?» C'est une phrase qu'on me dit tout le temps et qui m'agace beaucoup.
Vous êtes plus contestataire que le président Faure.
Oui, je suis plus contestataire.
Vous avez des idées plus avancées.
Oui, oui, mais maintenant tout ça est un
peu périmé. Ou peut-être vous êtes moins prudente.
On ne sait plus, au fond, maintenant, où est la gauche, où est la droite, ce qui est avancé... Ce qui ne l'est plus, où se situe le Parti communiste par rapport à la gauche, tout ça est tellement ambigu qu'on ne peut plus parler d'avancée ou pas. Et puis, depuis qu'il a été ministre de l'Éducation nationale, il est très avancé.
Enfin, 10 fois ministre, 2 fois président du Conseil, c'est à peu près cela?
Oui, 2 fois président du Conseil, ministre, je ne sais pas, oui, à peu près.
C'est quelque chose de difficile, quand même, lorsqu'on est en plus Lucie Faure et qu'on existe sans
ouais.
Edgar Faure.
Ben oui, ben, je vous dis, c'est comme le reste, on le fait comme ça.
Il est content de vous?
Il est très content de ce roman, oui. Ah, il n'a jamais cherché à m'empêcher de travailler, bien au contraire. Bien au contraire, il dit qu'il est très content. Mais il ne faut pas que ça le gêne.
Mais comment considère-t-il vos activités ?
Avec sérieux. Il me dit, mais comment est-ce que tu as fait ça ? Je ne t'ai jamais vu travailler. Lui aussi, il ne comprend pas non plus comment j'ai le temps. Parce que je ne mets pas de rituel dans mon travail et que je ne me mets pas devant un bureau en disant eh ben maintenant je vais travailler 5 heures ou 6 heures. Alors il ne comprend pas très bien comment je travaille parce que nous n'avons pas les mêmes méthodes. Mais enfin, je travaille.
Il préférerait peut-être que vous restiez totalement à la maison, féministe,
pas du
féministe.
Je ne sais pas, il a une position assez curieuse. Il n'est pas anti-féministe. Non, il n'est pas anti-féministe. Mais enfin, il n'est pas non plus. Enfin, la question ne se pose pas. Le féminisme n'est pas une question qui nous a jamais beaucoup ni séparés ni rapprochés. Ça ne m'a jamais beaucoup intéressé.
Ce qui est important, c'est qu'il soit un bon critique. C'est-à-dire qu'il puisse dire, ça c'est bon, ça, je crois qu'il faudrait revenir un peu.
Je lui montre ce que je fais une fois que c'est à peu près terminé. Et alors, quelquefois, il me fait des observations, mais vraiment mineures, de l'ordre... Tiens, oui, tu crois que c'était nécessaire. Voilà ce livre à 320 pages, je crois. Il a dû me faire couper 4 ou 5 lignes. Et je les ai tout de suite coupées. Il m'a dit, tiens, ça, pourquoi est-ce que ça vient là? C'est de cet ordre-là.
Il m'a dit qu'il vous devait beaucoup.
Il a la gentillesse de le dire, parce que je suis de temps en temps sa bonne conscience et très exigeante. Comme vous dites, je suis moins prudente, je suis plus exigeante, plus violente. Il paraît que les femmes sont plus violentes, je ne sais pas.
C'est vous qui avez engagé à entrer dans dans ce monde de la politique.
Oui, moi j'ai toujours été intéressée par la politique depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans, 6 ans, je m'intéresse à la politique, si j'ose ainsi m'exprimer. J'ai été en partie élevée par mon oncle Julien Quint et j'ai entendu toujours parler politique, ça me passionnait à 16 ans, 18 ans, enfin j'étais très 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 contente. Et quand nous sommes fiancés, je l'ai trouvé horriblement réactionnaire. À ce moment-là, il a cessé de faire de la politique. Et puis, la guerre venant, tout a changé. Nous avons changé de carrière, tous les deux.
Il est coléreux ?
Pas du tout. Il est... Non, il est toujours très agréable. Et quand ce qui pourrait être, si vous voulez, chez quelqu'un d'autre, de la colère, puisqu'il y a tout de même des sauts d'humeur, non, il est plutôt renfermé à ce moment-là. Il se ferme un peu comme une huître quand il n'est pas content, mais il n'est pas du tout coléreux.
Enfin, vous êtes
connu... Et il respecte beaucoup mon indépendance.
Vous êtes connu un soir, à un dîner...
Nous sommes connus un soir, à un dîner, puis nous ne sommes pas quittés depuis.
Mais il y a eu ce dîner, mais il y a eu quand même les années qui ont précédé ce dîner. Et alors, Lucie existait.
Alors à l'époque, je tournais déjà autour des livres. J'ai toujours tourné autour des livres. Mon grand-père était imprimeur. Mon oncle Julien Quint était administrateur des bibliothèques de France, à l'époque de la Nationale, je crois seulement, et ensuite de toutes les bibliothèques de France. J'ai ensuite moi-même fait de la reliure d'art pendant d'assez longues années, et très sérieusement, et puis j'ai fondé la Nef, j'ai publié quelques livres, et puis je me suis mise à en écrire. C'est-à-dire que j'ai tourné autour du livre toute ma vie. J'ai pas fondu de caractère, mais en dehors de ça, ni fabriqué de papier, j'ai fait à peu près tout le reste.
Mais auparavant, il y avait l'Arche, il y avait André Gide.
Alors, j'ai travaillé à l'Arche, à Alger, pour un numéro. Et à ce moment-là, tout le monde s'est affreusement disputé. Moi, j'avais un poste très modeste et je ne me suis disputé avec personne, bien entendu. Mais enfin, tout le monde s'est disputé. Je suis partie avec M. Robert Aron et nous avons fondé la Nef.
Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné de voir Edgar Faure en dehors du ministère ?
Pas du tout. Je trouve que... la vie politique...
C'est confortable, plutôt.
La vie politique n'est pas une fonction publique. Et on n'est pas fonctionnaire de la politique. Si l'on a un poste important comme dans la fonction publique, je comprends qu'on soit triste de le quitter ou d'en avoir moins important. La politique est par définition quelque chose de sinusoïde. Donc on est ministre et puis on n'est pas ministre. Donc ça me semble tout à fait normal. Et chaque chose a son intérêt, ses agréments, c'est tout à fait différent. Quand Edgar Faure était ministre, eh bien, c'est surtout à l'éducation nationale pour moi, l'agriculture m'intéressait moins, c'était tout à fait intéressant, on faisait de forts sacrifices du fait qu'on n'avait pas de vacances, qu'on dînait à 10h du soir, qu'on ne sortait jamais. Bon, mais tout ça formait un tout, une globalité tout à fait intéressante. Bien, maintenant il n'est plus ministre, mais nous avons fait un voyage en Asie tout à fait passionnant. Nous allons peut-être partir pour l'Afrique du Sud. Donc il s'agit d'autre chose, il écrit des livres. Et je suis beaucoup pour cette diversité de vie. C'est au fond un petit peu comme si on changeait tout.
Vous le suivez partout ?
Hors de France, toujours. Je ne le suis pas partout en France, car il va souvent sans sa circonscription, et là, je dois dire que je n'y vais guère. Mais enfin, j'y vais tout de même assez souvent, parce que j'aime beaucoup cette région, qui est très belle, mais ce serait beaucoup trop fatigant pour moi de partir à 8h du matin ou 7h, comme il va le faire, par exemple, demain matin. Mais dès qu'il quitte la France, je le suis toujours, pour les longs voyages, bien entendu.
Madame Lucifer, vous avez deux filles, Agnès et Sylvie. Il y a eu les fameux événements de mai 68. Et j'imagine qu'à ce moment-là, votre position n'était pas facile en face de deux jeunes filles.
Bah, l'une n'était plus une toute jeune fille, elle était déjà mère de famille, elle n'était plus étudiante, elle était chef de clinique, et nous avons eu beaucoup de difficultés, non pas entre nous, nous étions tout à fait d'accord, mais elle a travaillé à la réforme, c'est elle qui a fait la séparation de la neurologie et de la psychiatrie. Et nous nous sommes faits, tous les trois, Edgar Faure, Sylvie Faure et moi, beaucoup d'ennemis, spécialement dans le milieu médical. Et je dois dire que je ressens un certain chagrin. Mais ça a été, enfin, je ne sais pas si dans le grand public, on se rend compte, ça a été une certaine affaire Dreyfus. Enfin, il y a eu des brouilles, mais au sein de la famille, tout a toujours été très bien. L'âge plus jeune était étudiante, en effet, en philosophie. Elle a eu des hauts, des bas, des foucadements. Enfin, ça n'a jamais été grave. Non, il n'y a pas eu de dissension au sein de la famille. Enfin, au contraire.
Vous avez parlé de psychiatrie. Et lorsqu'on parle du cabinet du psychiatre, on parle forcément de ce confessionnal du siècle.
La psychanalyse.
Oui. Et ça vous intéresse.
Beaucoup.
Car si je donne le nom comme ça, c'est que véritablement on débouche sur votre littérature. Au bout du compte, lorsqu'on regarde tous vos livres, lorsqu'on lit vos livres, on s'aperçoit que vous êtes passionné par tous ces sujets.
Bah, je ne m'intéresse qu'aux êtres humains, vous comprenez. Je ne m'intéresse peu aux événements, pas énormément à la nature. Je m'intéresse, enfin, si, bien sûr, j'aime beaucoup voyager. Mais enfin, je m'intéresse aux êtres humains. Donc, on a ce merveilleux moyen. Et puis, à partir du moment où on a la psychanalyse, on a une dimension tellement plus grande et tellement différente pour regarder les êtres. Tout prend une richesse, et une profondeur, si vous voulez, un relief tout à fait étonnant.
Lorsqu'on parle de vous, que préférez-vous que l'on dise c'est la femme du président Edgar Faure ou plutôt c'est l'écrivain Lucifer?
Vous voulez que je sois sincère? J'aime mieux qu'on dise c'est l'écrivain Lucifer, bien sûr. Ça ne m'empêche pas d'être la femme d'Edgar, mais peut-être que n'importe qui aurait pu l'être et pas l'autre, je n'en sais rien, je vais pécher par orgueil. Non, j'aime mieux qu'on dise Lucifer, je tiens à ce que nous soyons très unis, mais que pour les autres, nous soyons séparés.
Est-ce que cet orgueil...
Et ça n'a rien à voir, on peut être tout à fait unis et séparés sur le plan de la vie publique.
Il y a cet orgueil d'écrivain, que tous les écrivains ont d'ailleurs, mais pour vous, est-ce qu'il s'agit de vous dépasser pour lui plaire? Car
non,
c'est un personnage qui n'est pas tout à fait comme les autres.
Non, il s'agit de me dépasser et aussi de lui plaire. Je pense que d'abord, il faut toujours plaire et que même un couple bien établi est à refaire tous les jours, que les êtres sont à reconquérir. Je suis content quand il est fier de moi ou quand il me dit « je t'assure, ça va très bien marcher parce que je suis timide, anxieuse ». Bon, eh bien, je suis contente, mais enfin, en dehors de ça, si j'écris, c'est pour être entendu.
S'il fallait lui reconnaître des défauts.
Qu'est-ce que je dirais?
Je vais bien noter, là.
Vous allez noter ses défauts? Il ne m'en a pas donné, je crois. Je l'aimerais plus violent. Peut-être plus violent.
J'espère qu'il a entendu.
Je ne sais pas, il y a aujourd'hui une grande séance à l'Assemblée.
Lucifer, nous avons parlé de vous. Maintenant, nous allons parler de votre livre, Le Malheur Fou, qui paraît chez Julliard. Ce livre est intéressant parce qu'il éclaire une situation qui en enveloppe plus d'un. Et j'ai l'impression que nous sommes nombreux à être concernés. Non pas que nous soyons fautifs, mais nous pourrions l'être. Le héros s'appelle Guillaume, l'héroïne s'appelle Claire. Claire a conduit la carrière d'écrivain de Guillaume, une carrière éblouissante, il tire même à 100 000 exemplaires. Et puis, la voilà un jour qui fait autour de lui le vide total. Je n'en dis pas plus car... Il ne faut pas raconter le livre, il faut se laisser surprendre par lui. Mais comment en est-elle arrivée là? Et comment par la suite, lui, en est-il arrivé là? Car il y a un recommencement des choses. Car si elle fait le vide, il fera le vide. Comment peut-on en arriver là dans un couple?
Je pense par le malentendu. Je pense que ce qu'il y a de plus grave dans le couple, c'est la non-communication et le malentendu. En vérité, tout à fait par hasard, il y a eu un malentendu. Elle a cru apprendre quelque chose qui, en vérité, était faux. Et au lieu de s'en ouvrir à lui, elle a agi sans rien dire, jamais. Et il n'y aurait jamais eu de drame, dit ce livre, si elle avait parlé. Et là, c'est le drame du silence.
Mais la vie à deux, est-ce que c'est quelque chose véritablement de très difficile? Est-ce qu'il faut faire des concessions?
Je ne pense pas qu'il faut faire des concessions. Il faut tous les jours faire quelque chose, pas forcément des concessions. Mais il faut que ça soit vivant et non figé. Un couple, c'est comme une plante, c'est quelque chose de vivace. Et si on le laisse se figer dans le silence ou dans le malentendu, on peut aboutir au drame sans raison, absolument sans raison. Et ça n'est pas tant le mensonge que le silence qui est dangereux.
Oui, mais le mensonge est un départ.
Le mensonge est un départ, mais le non-dit est très important. Le non-dit peut être bon ou mauvais, mais c'est très important.
Est-ce que vous pensez que c'est le mensonge qui entraîne le malentendu ou plutôt le malentendu qui entraîne le mensonge?
Le mensonge entraîne très souvent le malentendu. Car quand on s'est aperçu qu'on a vécu pendant plusieurs années sur des fausses valeurs, c'est très grave tout de même. Je pense que le mensonge est toujours plus nocif que ce que l'entendent de ses lais. Que toute vérité est moins grave que le mensonge.
Il est préférable, par exemple, de tromper sa femme pour un homme que de lui mentir. Ou vice-versa.
En le disant.
Sans le dire, alors.
Ah bah, il y a le mensonge plus l'adultère, alors qu'est-ce que c'est que ce conte? Vous n'avez pas fait de mathématiques, ni ancienne, ni moderne, vous.
Vous n'aimez pas ce conte-là?
Non, c'est l'un ou l'autre. Vous me demandez s'il est plus grave de mentir ou de tromper sa femme. Mais si vous ajoutez le mensonge à l'adultère, alors là, ça me paraît plus grave.
Oui, mais c'est le secret accumulé à ce moment-là.
Oui. Je pense qu'il vaut mieux dire que le mensonge est plus grave que ce qu'il prétend sceller. Toujours.
Il est facile de mentir?
Ah, ça dépend des êtres. Il y a des êtres qui mentent même pour le plaisir. Ça, c'est une question de caractère.
Mais le malentendu?
Alors, le malentendu est un autre problème. C'est les gens qui se murent en eux-mêmes pour ne pas dire, ou leur ennui, ou même quelquefois pour certains leur joie, leurs soucis, les problèmes qu'ils ont, et qui souvent, dit, se résolveraient immédiatement. Regardez comme les soucis sont beaucoup plus graves la nuit que le jour. Eh bien, c'est la même chose. Dans ce roman, si Claire avait dit tout de suite ce qui l'a conduit à cette vie insensée, elle aurait su qu'il n'y avait rien. Et c'est pour ne pas dire une phrase qu'ils en sont arrivés là. Et il y a des êtres pour lesquels dire une phrase est impossible.
C'est ce que vous appelez les rancœurs silencieuses.
Les rancœurs silencieuses. Oui, c'est souvent plus ambigu, plus compliqué. On a peur, il y a de la pudeur. Beaucoup de sentiments, vous savez, tout est toujours beaucoup plus ambigu et beaucoup plus compliqué.
On en arrive forcément à ce reproche que font les femmes aux hommes. Vous ne nous écoutez pas.
Alors, ce qui est grave, c'est que quelquefois ils écoutent et qu'ils n'entendent pas. C'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils écoutent et qu'ils n'en savent pas plus à la fin qu'au début. Le reproche est en tout cas rarement fait dans l'autre sens. Est-ce parce que les femmes parlent plus, je ne sais pas. Mais il est assez rare de voir un homme reprocher à sa femme son silence, tandis qu'il est courant de voir les femmes reprocher à leur mari leur silence, et prétendant qu'ils lisent les journaux. Et le reproche autre est un peu plus rare.
Je sais bien que vous ne puisez pas dans votre vie personnelle pour raconter des choses, et là, j'en suis sûr. Mais est-ce que vous écoutez beaucoup vous-même? Est-ce que vous regardez?
Moi, j'écoute beaucoup et j'entends non seulement ce qu'on me dit, mais en plus ce qu'on ne me dit pas. J'entends les lapsus, les oublis, les erreurs. Je considère qu'arriver en retard représente un certain mépris pour autrui, que d'oublier quelque chose est plein de sens. Donc j'écoute et en plus je crois que j'entends plus que je ne parle.
C'est une solitude à deux souvent les ménages?
Souvent, je crois, c'est une solitude à deux, on l'a beaucoup dit. Oui, enfin, cela dit, c'est quand même pas mal. C'est mieux que la solitude tout seul.
Ça peut se réparer?
Je suis d'une nature très optimiste, alors je crois que tout peut se réparer. Mais je ne suis pas sûre que j'ai raison. Et je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas un parti pris de ma part à vouloir que les choses s'arrangent. Tout ne s'arrange peut-être pas dans la perfection. Mais avec un peu de volonté, ça s'arrange quand même pas mal.
Vous avez un net besoin, Madame Lucifort, de découvrir les hommes. Vous faites de la psychologie. Ça se sent dans tous les livres.
Ça m'intéresse. Je n'en fais pas professionnellement, mais je m'intéresse aux êtres. Puis je voudrais que les choses aillent mieux. Je me dis que c'est bête. Vous comprenez, des êtres qui ratent leur vie parce qu'ils arrivent 10 minutes en retard, l'un d'eux arrive à 10 minutes en retard à un rendez-vous, eh bien pour moi c'est l'histoire la plus triste du monde. C'est le malentendu, l'erreur, le grain de sable. Et la vie est faite de grains de sable.
Quels sont justement ces petits malentendus qui peuvent tuer un couple? Il y a celui-là?
Je ne sais pas. Des malentendus, il y en a beaucoup, et puis ça n'a rien à voir avec la littérature. Vous me faites parler de...
Oh, c'est parce que votre livre va beaucoup plus loin que la littérature, car il ne suffit pas de lire le malheur fou. J'ai l'impression que les gens...
Des malentendus.
Les gens sont concernés.
Il y en a tout le temps. Il y en a entre les gens, par exemple, dans un couple, si quelqu'un aime lire et l'autre n'aime pas, ça peut créer beaucoup de malentendus. La passion pour le bridge, des tas de choses peuvent compliquer la vie. Mais ça n'est pas grave, ça, s'il y a une entente réelle et profonde.
Le principal pour un homme, c'est de faire participer sa femme à toutes ses aventures. Le travail, bien sûr.
J'allais vous demander, ah oui, à mon avis, il faut qu'une femme... Enfin, si vraiment un homme rentre et que sa femme ne sait pas du tout quelle a été son activité professionnelle, je crois que c'est très grave.
Lucifer, il y a dans votre livre beaucoup de phrases, mais qui sont celles-là de vous, parce qu'on sent... De toute manière, une personnalité.
Et toutes les phrases sont de moi, pourquoi ?
Non, mais on sent que c'est vous qui avez envie de dire des choses. Par exemple, celle-ci. Un homme de plume, c'est autre chose qu'un acteur. Même à l'époque de la télévision, des voyages interplanétaires, l'écriture garde sa noblesse et le respect s'impose.
Non,
et déjà, là, c'est une critique
tout,
de l'acteur, déjà.
Pas du tout, ce sont les villageois qui disent ça quand ils découvrent... Tout de même, quand il découvre que Guillaume est un écrivain, il sent plein de respect. Ce n'est pas du tout moi qui dis ça, ce sont les gens du village qui tout d'un coup sont subjugués par cet homme. Non, ce n'est pas moi qui dis ça.
D'ailleurs, vous plantez très bien le décor du village, car ce village se demande qui est Guillaume, qui
oui,
est Claire.
Je ne suis jamais allée dans ce village.
Et ensuite, on apprend un jour, tout à fait par hasard, que Guillaume est un auteur. Et à ce moment-là, l'optique change, les gens deviennent intéressés.
On les respecte. Parce que je pense qu'en effet, dans un village, on considère que les acteurs, c'est toujours un peu louche et qu'on ne sait pas très bien d'où ça vient, tandis qu'un homme qui écrit des livres, donc on a vu, ça suscite le respect. Mais ce n'est pas moi qui parle, ce sont les villageois.
Est-ce que vous êtes fière de votre condition de femme de lettres, Madame Lucifer ?
Non, je ne dirais pas du tout que j'en suis fière. Je dis qu'elle m'apporte des joies, surtout dans le travail, plus qu'après.
Il y a autre chose maintenant. Il y a une jeune femme qui a posé sa candidature à l'Académie française. C'est un grand moment pour vous, les femmes. C'est Françoise Parturier. Alors, quelle est votre opinion là-dessus ?
Moi, je suis toujours pour qu'on ouvre les portes. Donc, et je suis également toujours pour les gens qui sont pour et jamais pour les gens qui sont contre. Donc, laissant ce cas particulier, je suis pour par principe. Et je trouve que Françoise Parturier est une femme fort bien, qui a beaucoup de talent et qu'il fallait que quelqu'un ait de l'audace, qu'elle en a eu. Et puis que ça sera intéressant de savoir combien elle aura de voix.
Mais vous pensez qu'elle ira jusqu'au bout ?
Ah, je le souhaite ardemment. Ah oui, sans ça, ça n'a pas de sens. Non, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, je le souhaite et j'espère qu'elle le fera. Je serai très déçue. Parce qu'à ce moment-là, tout de même, il faudra bien voir. Elle ne s'est pas lancée dans cette affaire sans avoir vérifié les statuts, savoir si sa candidature serait admise et s'il y avait des raisons juridiques de la refuser. Elle a sûrement étudié tout ça, c'est une femme fort sérieuse. Et donc, si elle se présente, c'est qu'elle compte aller jusqu'au bout et qu'en tout cas, elle en a la possibilité. Donc, il sera intéressant même de voir qu'elle est zéro voix. Alors, c'est une épreuve dans laquelle, j'espère, on ne se lance pas sans être fermement déterminé à aller jusqu'au bout. Du reste, elle va faire ses visites, elle le disait, je crois, et ça sera déjà plein d'enseignements.
Vous pensez que l'Académie française pourrait commettre l'erreur de ne pas donner une seule voix ? Car si l'on s'en tient à ce qu'on dit les académiciens en d'autres temps,
oui. On
s'aperçoit qu'ils sont pour les femmes à l'Académie française.
Oui.
Mais c'est maintenant que tout devient difficile, car quelqu'un se présente. Il va falloir voter.
Eh bien, on va voir, et ça va être tout à fait intéressant, mais j'espère qu'elle ira jusqu'au bout.
C'est le triomphe de la femme ?
Ça n'est pas comme ça que
si elle était couronnée.
Ah oui, ça serait merveilleux. Mais ça serait surtout une injustice réparée, parce que les femmes sont des personnes. Je ne fais pas de féminisme, vous comprenez. Je ne dis pas que les femmes ont des vertus et des... capacité excellente, ce n'est pas ça. Mais les femmes sont des personnes, ce sont des êtres humains et il n'y a aucune raison pour que certaines carrières, sauf pour des raisons de force musculaire, ce n'est pas le cas de l'Académie, ou des raisons de physique, si vous voulez, leur soient interdites. Alors l'Académie française, on se demande pourquoi on ne veut pas en admettre.
Mais
la
vous,
seule raison, c'est qu'il y a des hommes.
Mais vous, Lucifer, est-ce que... Vous avez rêvé d'y être un jour.
Je n'y ai jamais pensé. Jamais, je n'ai pas d'ambition de ce genre. Moi, j'ai comme ambition celle de travailler. Mais je n'ai pas d'ambition autre, si vous voulez. Je fais mal mon métier une fois que... Je ne sais pas si je le fais bien avant, mais je le fais mal une fois que mon livre est sorti. Je ne le fais pas spontanément. Pour moi, la littérature, c'est, si vous voulez, une sorte de travail que je fais certains jours dans la joie, certains jours dans la peine. Mais c'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir... écrit le livre, prêt.
Il y a une littérature écrite, mais il faut bien considérer qu'il y a tout de même une littérature vendue. Il faut s'en occuper un peu aussi.
Ah oui, parce que je considère également que le lecteur, c'est très important. Et qu'un livre n'existe qu'une fois qu'il est lu. Je ne crois pas du tout, voyez-vous, aux gens qui diraient, aux femmes, aux hommes, qui diraient, oh, moi, j'écris pour moi, j'entends ça de temps en temps, et je ne veux pas du tout publier. Ça n'est pas vrai. D'abord, ça n'est pas vrai humainement. Et deuxièmement, le livre n'existe qu'une fois qu'il a été soumis au regard de l'autre. Et le lecteur lui apporte quelque chose. Donc, bien sûr, je ne pense pas du tout au lecteur au moment où j'écris. J'ai du reste tort, je devrais par exemple penser un peu au cinéma, par exemple. Bon, ça, je n'y pense pas. Je suis concentrée sur moi-même. Mais je pense que le lecteur est quelqu'un d'infiniment important et de très respectable, et que son avis, après tout, est le seul.
Vous faites des concessions en matière de littérature ?
Non.
Vous ne pensez pas, tiens, ça pourrait plaire au public ? Non.
Non.
Vous allez droit ?
Non, j'y pense pas. Je ne le vois pas en tant que livre, tant que j'écris. Je ne le vois pas, je ne l'imagine pas.
Madame Lucifort, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous et le président, vous aimiez beaucoup lire. Mais quel est votre univers de lecture ?
Eh bien, nous avons un univers de distraction et un univers de travail. L'univers de travail, lui, lit des livres d'économie politique que je ne lis pas. Et moi, je lis des livres de psychanalyse qui ne le lit pas. Et puis, nous lisons l'un et l'autre des romans. Et puis, lui, tout le monde le sait, lit énormément de romans policiers.
Un écrivain.
Il lit beaucoup de romans policiers. Et moi, j'en lis un de temps en temps qui me sélectionne. C'est-à-dire que quand il en trouve un très bon, il me dit « ça te plaira beaucoup, alors je le mets de côté pour un jour où je suis fatigué ou un jour où je prends le train, et je lis. » Mais j'en lis pas le dixième de ce qu'il lit.
Vous lisez tout ce qui sort quand même, qui vous paraît important ?
Oui, j'ai envie. J'ai envie. Quelquefois, je me dis « j'ai tort tout de même ». Je lis pas tout ce qui sort, non, sûrement pas. Mais enfin, je reçois énormément de livres, j'ai un très grand appétit. C'est moi, quand j'écris, alors je lis très beaucoup, beaucoup.
Par exemple,
en ce moment, je lis beaucoup parce que je n'écris pas. Et qu'il n'est pas question que j'écrive. Ce livre vient de sortir, enfin, je ne pense pas au suivant. Mais alors, je lis. Et pendant les vacances, j'ai lu aussi. Mais quand j'écris vraiment, alors là, je lis très peu.
Par exemple, actuellement, si vous étiez juré au Goncourt, vous savez à qui
non,
vous donneriez votre
lu,
voix ?
Non, je n'ai pas lu assez.
Prudente ?
Non, mais je n'ai pas lu assez. Non, je n'ai pas lu beaucoup de livres. J'ai lu justement en ce moment beaucoup de livres de psychanalyse. Et non, je n'ai pas lu assez de livres qui viennent de paraître. Et puis pendant les vacances, j'ai l'habitude de lire des livres qui me manquent, que je n'ai pas lus en leur temps pour une raison ou une autre. C'est ainsi que l'année dernière, j'ai lu L'homme sans qualité, que cette année, j'ai lu Bal du Seigneur. Enfin, je lis des livres un peu plus anciens et j'en éprouve de grandes joies.
Lucifort, parfois, vous êtes très ennuyé parce que... on parle de votre vie mondaine, alors qu'il faudrait plutôt parler de votre vie familiale, de votre vie politique, mettons, ou de votre vie littéraire. Mais on a collé une petite étiquette.
Eh bien oui, je n'aime pas ça parce que je n'aime pas ce qui est faux. J'aime bien que l'on dise sur moi des choses vraies, que je ne suis pas une femme mondaine. Alors je n'aime pas ça, je n'aime pas les cocktails, j'aime bien voir des amis, j'aime les dîners en raison inverse du nombre des convives. Alors, je ne suis pas une femme mondaine, donc je n'aime pas ça comme une erreur, c'est tout. Ça n'est pas une question d'hiérarchie de valeurs. C'est que c'est une erreur, alors je n'aime pas.
Mais la vie politique n'agace jamais la vie conjugale ?
Oui, dans le quotidien, bien sûr. Par exemple, il y a le problème des week-ends dans la circonscription. Alors ça, c'est toujours le sujet éternel de conflit. Tu pars en Corse, c'est insupportable. Bon, mais c'est superficiel. Alors ça, c'est jamais grave, ce qui est superficiel. Je suis un peu agacé, ou peut-être Edgar Faure est un peu agacé que je lui dise « tu pars en Corse ». Mais tout ce qui est à fleur de peau, c'est pas grave. Et pour le reste, l'entente est profonde entre nous sur, je crois, crois, le fait qu'il soit un homme d'État, j'espère. Et alors qu'il y a des femmes qui sont contre la vie politique de leur mari. Non, moi, au fond, j'ai une mauvaise grâce à me plaindre parce que je voudrais n'avoir que les choses importantes et pas les détails, voilà.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'ambition, sauf celle d'écrire. Mais est-ce que vous êtes ambitieuse pour votre mari ?
Je ne sais pas ce terme. Je ne suis pas vaniteuse, ce qui me prive de beaucoup de joie. Je n'ai pas du tout de joie à paraître, à être dans des dîners ou des choses comme ça. Mais je crois que j'ai un certain orgueil et certainement le goût du pouvoir. Mais je n'ai pas de vanité. Et comme mon mari en a un peu, je m'aperçois que je me prive de certaines joies que lui ressent et que moi je ne ressens pas.
Vous pensez à une carrière de votre mari ? Lui qu'il a eu déjà tellement fourni.
Je n'y pense pas, mais vous savez, les gens ne comprennent pas du tout. On croit que Edgar Faure est quelqu'un d'ambitieux qui a préparé les choses. Mais non, tout est venu comme ça, par hasard, d'une façon inattendue. La première fois qu'on a fait appel à lui pour être ministre, il était désespéré. Nous n'étions pas là, il n'a pas eu le poste. Il était très malheureux, nous étions à Venise. Et très souvent, les choses se passent comme ça. Pendant les crises ministérielles, sous la 5e, il n'y en a plus. Mais du temps de la 4e, il y en avait beaucoup. Eh bien, nous en profitions pour aller au cinéma. Il n'allait jamais dans les couloirs. Il l'attendait qu'on téléphone. Enfin, nous ne sommes pas du tout comme on croit que nous sommes. Ce n'est pas du tout quelqu'un d'ambitieux sous cette forme, vous comprenez. Il n'est pas pressé. Tout ça est arrivé gentiment.
Est-ce qu'il vous arrive d'aller tous les deux tout seuls au cinéma un soir ?
Bien sûr, très souvent.
Qu'est-ce que vous choisissez alors ? Quel genre de film ?
Alors vous demandiez des sujets de conflit, bien sûr, j'avais oublié celui-là. Nous n'aimons pas les mêmes films. Moi j'aime assez les films dits d'avant-garde, enfin.
Jean-Luc Godard par exemple.
Oui, si vous voulez. Et mon mari aime énormément les films gays, genre américain, avec surtout une happy end. Alors ça, il adore. Moi, j'aime bien les films avec des noirs, par exemple. Alors nous avons beaucoup de difficultés, mais quelquefois nous trouvons, et puis quelquefois il y en a un qui râle.
Enfin, de toute manière, il est western pour rassembler tout le monde, non ?
Ah oui, il y a les westerns, moi j'aime pas tellement.
Mais vous m'avez dit, là, il n'aime pas les films qui terminent mal.
Non, pas du tout, il n'aime pas du tout que j'ai fait une face si triste à mon roman.
C'est une notion de bonheur, ça ?
Ah, il n'aime pas du tout que ça soit triste. Il n'aime pas que ça soit triste, il veut que les choses s'arrangent, qu'il n'y ait pas de drame. Par exemple, dans un livre précédent, j'avais une héroïne qui se suicidait, et puis ensuite les deux êtres qui s'aimaient, qui étaient séparés par ce suicide, il était très très mécontent.
Vous êtes également divisé sur le plan, au niveau de la chanson ?
Non, pas du tout, nous aimons bien les chansons.
Et la musique ? Parce qu'il était un excellent pianiste, je ne sais pas.
Alors, la musique, c'est un cas, il représente un cas tout à fait extraordinaire. C'est qu'il est très musicien. Et qui n'aime pas du tout la musique. Alors ça va très bien, comme moi je n'aime pas non plus la musique, ça ne me gêne pas qu'il soit musicien, mais il n'a pas plus envie d'aller au concert que moi.
Et comment se fait-il, étant pianiste, qu'il n'aime pas la musique ?
C'est un cas unique, je ne connais que lui. D'habitude, les gens qui font quelque chose, et qui le font bien, aiment ça. Et bien lui, non, ça ne l'intéresse pas. Ça l'embête d'aller au concert, et moi aussi. Alors qu'il a été élevé dans la musique, et qu'il est très doué, et que si on entend quelque chose, il peut le jouer immédiatement, ce qui, moi, m'éblouit. Eh bien, il n'aime pas du tout aller au concert, donc nous ne sommes pas séparés par ça non plus.
Madame Lucifer, est-ce que pour Edgar Faure, il y aura demain, à votre avis ? Est-ce qu'il y aura un grand demain, comme il y a eu un grand hier ?
Je ne sais pas, je n'ai aucun moyen de le savoir.
J'ai un petit papier devant moi qui vient d'un astrologue américain. Cet astrologue s'est amusé à relier les signes. Et il y a d'un côté Edgar Faure qui est du signe du lion, et de l'autre côté Lucifer qui est du signe du cancer. Et voilà ce que ça donne.
Je ne connais pas du tout ce papier.
Il s'est penché très sérieusement sur la question. En général, la sagesse des nations nous apprend que le feu et l'eau ne vont pas bien ensemble. Le cas de ce couple est l'exception qui confirme la règle. Lui est ambitieux, il souhaite la richesse pour ce qu'elle procure. Abondance, influence, prestige social et possibilité d'éblouir les autres par sa générosité. Elle est, par contre, très économe et ne sera pas toujours d'accord avec ses extravagances. Mais elle est fort avisée dans les questions financières, ce qui lui permettra d'assister opportunément son mari dans la gérance de leurs affaires. Est-ce que vous êtes d'accord?
Pas du tout. Mon mari n'est pas du tout ni dépensier ni fast-food. Il ne s'intéresse pas du tout à l'étalage de la richesse. Il n'achète jamais d'objets d'art, ni rien. Oh non, pas du tout.
On continue?
On continue, mais là, non.
Bon, il aime sortir.
Et je ne suis pas spécialement économe, ni hélas très avisé sur les problèmes financiers.
Il aime sortir, voir du monde.
Oui.
Elle ne déteste pas la société, elle a le sens du décorum, elle sait se montrer charmante avec ses hôtes ou ses invités, et surtout, elle sait fort bien laisser son mari briller comme il le désire.
J'espère, je ne sais pas.
Mais de toute manière, est-ce que vous êtes d'accord sur toutes ces explications de signes?
Mais je ne connais pas la question. Moi, je n'y crois pas beaucoup, mais j'ai des amis qui j'ai très confiance et que j'admire même et qui y croient énormément. Moi, je ne sais pas.
C'est peut-être parfois ennuyeux de voir une vie décortiquée comme ça par des psychologues.
Ça, c'est pas très bon. Quelquefois, c'est bien, mais là, le problème de la richesse et de la fastuosité de mon mari, non, je ne vois pas en quoi.
Enfin, je vous confierai ce petit article.
Très bien.
Lucifer, il y a ce livre, Le Malheur Fou, qui, je le rappelle, vient de paraître chez Julliard. Et je dois le dire, ce livre est prétexte à beaucoup de conversations. Moi, je le recommande parce que dans ces couples qui souvent ne se comprennent pas, il y a peut-être un dénominateur commun. Il faudrait qu'ils le lisent et qu'ils parlent ensuite. Non pas du livre peut-être, mais d'eux. Que l'homme écoute la femme et que la femme écoute l'homme. Nous parlions tout à l'heure de vanité et d'orgueil. Est-ce que pour vous, Lucifer, ce sont des qualités?
La vanité est un défaut mineur assez charmant et dont on peut tout au plus sourire. Enfin, ça n'est pas un grand défaut. Dire que c'est une qualité, je n'irai pas jusque-là.
Très bien. Alors, l'orgueil.
L'orgueil, c'est comme beaucoup de choses. C'est à la fois bon et mauvais. Ça peut être un moteur utile jusqu'à un certain degré et ça peut être nuisible au-delà de 50 ou de 60 si ça vous entraîne à des actions qui peuvent être basses, par exemple, ce qui pour moi est un adjectif important. La bassesse de quelqu'un est quelque chose de grave. Alors ça dépend où l'orgueil vous entraîne. L'orgueil est un moteur qui peut vous amener sur une bonne et une mauvaise voie. Alors, je ne crois pas à l'orgueil en soi, si vous voulez. L'orgueil est quelque chose qui est un moteur qui vous entraîne à droite ou à gauche.
Donc dans un couple, l'orgueil peut être un moteur et la vanité, au contraire, quelque chose de terrible.
La vanité n'est pas grave, la vanité.
Si par exemple
une
femme poussait très haut son mari, alors qu'il n'en a pas.
Ah oui, si c'est par vanité, bien sûr. Si c'est par
seulement par vanité.
Oui, alors là, c'est grave. Parce que c'est sans intérêt, enfin. Mais l'orgueil, c'est un autre problème. Et ça peut entraîner plus loin dans le bien et dans le mal.
Êtes-vous de ces femmes qui pensent que c'est l'homme qui a toujours tort?
Oh non, pas du tout. Du qu'il a toujours raison. Mais moi, je ne pense pas en termes d'hommes et de femmes. Je ne suis pas féministe, si vous voulez. Les choses étant tellement pour moi acquises que je n'ai pas envie ni d'en parler, ni de me battre, que ça ne m'intéresse pas. Je crois tellement foncièrement à l'égalité des hommes et des femmes que je ne suis même pas féministe. Donc je ne pense pas les femmes en ci, les femmes en ça. Je pense que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose uniquement dans des problèmes très précis. Et que dans les autres problèmes, dans les autres actes de la vie, il y a des hommes, il y a des femmes, les deux sont des personnes.
Enfin, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche.
Ah,
c'est
non.
Autre chose.
Pas du tout. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de droite et pas de gauche. J'ai dit que les choses étaient ambiguës maintenant et que la droite et la gauche n'étaient peut-être plus situées où elles se trouvaient situées autrefois. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas et qu'il faudrait peut-être redéfinir les termes. Je n'ai pas dit non plus qu'il n'y avait pas d'hommes ni de femmes. J'ai dit qu'il y avait des hommes et des femmes dans certaines circonstances. Mais que dans les circonstances du travail, par exemple, je ne voyais pas de différence entre un homme et une femme. Vous êtes en train de m'interroger, je réponds, les rôles pourraient être inverses. Et je ne vois pas ce que ça changerait.
Lucifer, est-ce que vous avez eu envie, vous, de faire de la politique?
Je ne crois pas. On me l'a proposé. D'abord, j'aurais eu beaucoup de mal à me définir. Et deuxièmement, je ne sais pas si j'en aurais accepté les servitudes, donc je n'ai pas eu envie de le faire pour ces deux raisons. Et pour une troisième, c'est que je n'aurais pas voulu me donner le ridicule de former avec mon mari un couple politique. Parce que ou bien nous aurions été du même parti et étaient sans intérêt, ou bien nous aurions été de partis différents et c'était ridicule. Donc en aucun cas, je n'ai envisagé cette possibilité.
Lucifer, vous écrivez, mais vous ne pensez pas au cinéma, vous ne pensez pas à la télévision. Bien sûr,
il y a eu
La Bien-Aimée. Mais vous ne pensez pas à cinéma.
Non, j'ai tort. Ça fait partie, comme diraient mes amis chinois, d'une insuffisance. J'aime beaucoup cette expression. C'est une insuffisance, je devrais penser cinéma. Mais une fois que le livre est terminé, par exemple, en ce moment, je pense mieux cinéma. J'aurais peut-être dû faire quelques petites réformes pour que ce soit mieux. Mais je suis disposée à les faire pour en refaire un scénario.
Madame Lucifer, j'ai été ravie de vous accueillir.
Le temps passe vite avec vous, monsieur Chancel.
Vous êtes gentil. Le malheur fou, est-ce que vous avez eu déjà des opinions? Est-ce que des hommes et des femmes vous ont parlé de ce livre?
Oui, et d'une façon qui est très satisfaisante et pour mon orgueil et pour ma vanité.
Ils s'y retrouvent ou ils en ont peur?
Les hommes, je ne sais pas si on peut dire ça devant votre micro, me disent presque tous qu'il s'agit d'une effroyable emmerdeuse. Je voudrais tout de même dire que moi, ça n'est pas ça que j'ai voulu dépeindre. Mais les hommes le considèrent. Mais les femmes, pas du tout, elles ont beaucoup plus de sympathie pour cette dame.